Bon, alors, la narrativité, c'est bien le sujet de mon intervention aujourd'hui. Alors, il n'existe peut-être aucun concept dans l'étude du récit qui jette sa toile aussi large que la narrativité et qui soit aussi multiforme, défiant toute définition précise. Le récit, qu'il soit verbal ou non verbal, fictionnel ou factuel, mais aussi des artefacts culturels comportant des éléments narratifs tels que la poésie lyrique, les arts plastiques, les arts du spectacle, voire la musique, ainsi que la conversation, les jeux informatiques, etc., seraient inimaginables sans un certain dosage de narrativité ou, compte tenu de l'invention récente de ce terme, un principe qui remplit cette fonction. En quoi consiste la narrativité? Peut-on la définir en délimitant des traits formels? Est-elle une catégorie narrative parmi d'autres? Fait-elle partie de l'immanence du récit? Le récit produit-il la narrativité ou est-il produit par la narrativité? Existe-t-il des types ou des degrés de narrativité? Est-ce qu'elle fonctionne de la même manière dans le roman que dans le film, le conte ou le récit dans la vie quotidienne? La narrativité peut-elle être perçue de différentes manières? Je ne prétends pas être en mesure de fournir des réponses satisfaisantes à ces questions, qui montre aussi bien la complexité du problème de la narrativité que ses multiples aspects. Au mieux, mes réflexions serviront, je l'espère, de jeter de la lumière sur un phénomène qui, dans l'état actuel des recherches, semble bien aller au cœur même de ce qui constitue le fait narratif et son appréhension dans le processus de communication narrative. Quand on lit les premiers écrits consacrés à la narrativité, on est frappé par le caractère presque univoque qui lui est attribué par les uns et les statuts plus ou moins accessoires par les autres. Ceci s'explique en partie par le fait que, traditionnellement, la narratologie s'oriente vers les formes épiques avec un accent tout particulier sur les fictions littéraires. D'autre part, il est intéressant de noter que pendant longtemps, les chercheurs qui travaillaient sur les récits non littéraires, notamment le conte, fondaient leurs recherches presque invariablement sur des textes écrits. Donc Vladimir Propp et sa progéniture, contrairement aux anthropologues ou aux sociolinguistes par exemple, qui vont travailler sur le terrain, se contentaient des versions transcrites des contes, faisant l'abstraction de tout ou de presque tout qui se rapporte à la performance du conte. L'inconvénient d'une telle approche est évidemment de ne pas prendre en considération l'interaction entre le conteur et ses auditeurs, interaction parfois riche sur le plan gestuel et praximatique, voire sur celui des expressions fatiques et même au niveau des rapports. Oui, et même au niveau des rapports sociaux, est donc un facteur potentiellement déterminant pour le déroulement du conte. Dans le cas de Propp, la réduction du conte à sa version écrite se traduit par l'examen minutieux de l'enchaînement des 31 fonctions qui forment l'armature d'un corpus spécifique, un corpus de 100 contes russes, mais qui, moyennant certains aménagements par les successeurs de Propp, fournissent un cadre conceptuel pour le récit tout court, le conte oral comme le récit écrit, ainsi que d'autres manifestations du récit. Alors, sans sous-estimer l'importance de Propp et ses successeurs, on est néanmoins frappé par la confusion presque inconsciente du récit écrit et du récit oral, comme si la structure du conte, commune aux deux, suffisait pour préciser en quoi consiste le caractère narratif, indépendamment des différents facteurs de performativité du récit oral et de la situation de communication spécifique du récit écrit. Il serait intéressant d'analyser, mais dans un autre contexte, comment en théorie narrative la pseudo-oralité a infiltré l'étude des récits écrits. Alors, tant que la narratologie évoluait dans le domaine des fictions littéraires d'un côté et dans celui des récits écrits de l'autre, c'est-à-dire, grosso modo, depuis le formalisme russe jusqu'à la narratologie dite classique, et même au-delà, la question de la narrativité, quand elle était posée, restait relativement peu problématique. Mais la situation s'est transformée progressivement sous l'influence d'au moins trois évolutions qui ont modifié la donne et qui continuent à influencer la situation aujourd'hui. L'article séminal de Labov et de Waletsky, qui n'est pas sous la bibliographie, mais le trouvé dans d'autres références, cet article de Labov et Waletsky, Narrative Analysis, Oral Versions of Personal Experience, c'est la version orale de l'expérience personnelle, publié en 1967, un article classique. Alors, cet article a introduit au sein de l'analyse des récits, dans la conversation quotidienne, les techniques de la sociolinguistique. La structuration de tels récits et les critères de leur analyse se distinguent à plusieurs égards cruciaux de l'analyse des récits littéraires. Par exemple, les récits de ce genre sont souvent plus anecdotiques que le roman ou que la nouvelle bien construite, et ils sont aussi relativement pauvres en niveau narratif, les récits enchâssés, favorisant plutôt l'ancrage de l'histoire dans la situation spatio-temporelle des interlocuteurs, et donc un degré élevé de feedback entre le conteur et ses auditeurs. D'autre part, la distinction narrateur-auteur, monnaie courante en narratologie littéraire, n'est pas un critère d'une grande pertinence dans le récit de la vie quotidienne. Dans ce genre de récit, le conteur qui dit « je » se rapproche le plus souvent de l'interlocuteur, nonobstant la véracité de ses propos et les rôles de façade que cette personne peut adopter. Ces considérations n'ont pas manqué de produire des effets chez les praticiens de la narratologie littéraire, tels que Jean-Michel Adam, dans le domaine français, mais aussi et surtout Marie-Louise Pratt, sur la bibliographie « Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse », qui a introduit bien les problèmes de l'oralité dans le récit écrit. Hein. Et surtout Monica Flodenek, Towards a Natural Narratology, c'est classique maintenant dans votre bibliographie. Alors, le livre de Monica Flodenek est provocateur et controversé dans la mesure où elle place au cœur du débat sur la narrativité, et notamment, il ne fait pas vraiment la distinction, ou il dispute la distinction histoire-discours. Story plot et place au cœur du débat sur la narrativité, et notamment la narrativité du récit littéraire, ce qu'elle appelle en allemand Erfahrungshaftigkeit ou en anglais experientiality, et elle m'a proposé de traduire ça en français, j'hésite un peu, mais c'est ce qu'elle a proposé. La qualité de l'expérience humaine. Donc, ce n'est pas pour elle la narrativité. Pour elle, la narrativité. Merci. Pour elle, la narrativité n'est pas fondée sur la structure du contenu, la structure des séquences. La structure profonde, etc., mais plutôt sur cette expérience, ce qu'elle appelle la qualité de l'expérience humaine. Hein. Très controversé, un livre très, très intéressant, provocateur, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, pour Flodenek, la narrativité du récit littéraire est proche de celle qu'on trouve dans le récit de la vie quotidienne. Relègue un rôle secondaire une des distinctions fondamentales de la narratologie classique, celle de l'histoire et du récit. Le problème du récit oral, ça c'est que quand on a commencé à prendre ça en compte, la narratologie a été un peu modifiée cette nouvelle donne. Alors, une deuxième source de problématisation de la narrativité, c'est la réflexion sur les convergences et les divergences du récit fictionnel et du récit factuel, et plus particulièrement du récit d'histoire. Traditionnellement, les narratologues et les sémioticiens du récit se concentrent sur la signification narrative, sans se soucier trop des différences qu'il peut y avoir entre la signification du récit de fiction et le récit factuel, et plus généralement des particularités de la signification des différents types de récits. Mais comme le montrent les travaux de Hayden White, par exemple, l'emploi des procédés littéraires dans le récit d'histoire traduit une hybridisation des discours narratifs qui soulève des questions d'une grande portée pour le rapport entre historicité et narrativité. La contribution incontournable dans ce domaine est bien sûr Temps et récit de Paul Ricoeur, une étude comparative magistrale du récit de fiction et du récit d'histoire. Et dans un chapitre particulièrement intéressant pour nous serait dans le volume 2, les contraintes sémiotiques de la narrativité. Okay. Dans ce livre, l'auteur introduit une opposition fructueuse l'étude de la narrativité. C'est la rationalité sémiotique qui l'oppose à l'intelligence narrative. La rationalité sémiotique, et Ricoeur se réfère tout particulièrement à Grémas et à l'École de Paris, repose sur la formalisation du discours, y compris les récits, produisant un simulacre achrone du récit. Dans ce cadre, la narrativité est considérée comme un niveau sémiotique immanent, le principe organisateur logiquement antérieur à tout discours, narratif et autre, et qui est strictement dissocié de toute forme de temporalité. Alors, face à cette conception immanentiste de la narrativité, Ricoeur propose l'intelligence narrative fondée sur la notion de mise en intrigue qui réunit la temporalité augustinienne au mythos et à la mimesis aristotélicien. Il est justement l'introduction de la temporalité dans le récit, celle du récit de fiction et celle du récit d'histoire, et les différents moyens mis en œuvre par le lecteur pour refigurer le monde propre à chaque type de récit, qui mettent en question la thèse de l'immanence textuelle de la narrativité. Donc avec Ricoeur, on ne peut plus vraiment parler de l'immanence textuelle de la narrativité. Alors, Ricoeur, on le sait, aborde ces questions par le biais de l'herméneutique. Mais la pertinence des rapports et des divergences entre les récits fictionnels et les récits factuels dans l'évolution de la narratologie se confirme par une autre perspective, celle des actes de langage adoptés par Gérard Genette dans Fiction et Diction, et on lira dans ce même ordre d'idées plusieurs chapitres de La distinction de la fiction de Dorot Cohn. Je n'ai pas indiqué ces deux livres de la bibliographie, ils sont tellement bien connus. Alors, même si ces deux ouvrages ne portent pas sur la narratologie telle qu'elle, Il témoigne de la réorientation de la narratologie pour rendre compte du récit dans ses différentes manifestations non littéraires et non fictionnelles, et donc les différents types de significations narratives. Alors, troisième évolution qui problématise la narrativité consiste non seulement à la multiplication des types d'objets narratifs pris en compte par la théorie narrative, fictionnelle, historiographique, juridique, psychanalytique, etc., mais aussi en le fait que certains objets culturels sont susceptibles de posséder des traits narratifs sans être considérés comme des récits proprement dits. À cet égard, l'article de Venervolf, en fait, une bibliographie, sur la narrativité en littérature, art, plastique et musique, est à signaler que la narrativité, et plus précisément le type de narrativité, le degré de narrativité, plus ou moins grand, qui est susceptible d'habiter un objet culturel donné, fournit des perspectives tout à fait éclairantes dans le domaine esthétique, comme ailleurs. Et en fait, l'article de Wolff s'inscrit dans le cadre d'un courant actuel de la narratologie dans les pays germanophones, celui de la narratologie dite transgénérique. On assiste depuis quelques années à la publication d'analyses narratologiques de la poésie lyrique ou du drame qui s'appuie de manière explicite ou non sur la notion de narrativité. Alors, la narrativité, à partir du moment où on a examiné non seulement le récit littéraire, mais d'autres types d'objets culturels, la narrativité a pris importance. C'est un des éléments importants pour comprendre la place de la narrativité dans les études narratives aujourd'hui. Alors, un autre ouvrage collectif, tout récent, Narrative Across Media, The Languages of Media, publié sous la direction de Mary Ryan, qui est sous la boîte de bibliographie, un livre tout récent, réunit des articles autour de la notion de transmédialité. L'intérêt considérable de cet ouvrage est de combler un vieux déficit dans la mesure où le support matériel du récit est rarement pris en compte, même si ce support est parfois susceptible d'exercer une influence sensible sur le déploiement du récit. Alors que l'histoire de Cendrillon peut être parfaitement reconnaissable dans un ballet, il semble excessif de conclure que le ballet présente la même histoire que celle de la version orale, écrite ou opératique. Narrative Across Media est organisé en 5 sections. Le récit dans la conversation quotidienne, l'image fixe, le cinéma, la musique, et ensuite les médias numériques. Et une des notions clés qui permet de relier entre elles ces différentes perspectives sur le récit, ces différentes perspectives transmédiales, c'est la narrativité. C'est une notion qui revient souvent dans ces articles. Alors, les 3 évolutions en théorie narrative que je viens d'identifier, l'impact de l'analyse du récit oral sur la narratologie, les conséquences pour la narratologie des différences entre le récit fictionnel et le récit factuel et historique, et enfin le récit dans ses dimensions transgénériques et transmédiales, traduisent dans leur ensemble, et en conjonction avec d'autres évolutions encore, un élargissement prodigieux de l'objet narratif. La prise en compte des différents types de récits et de faits narratifs que mon commentaire rapide cherche à recenser semble bien s'accompagner d'un enrichissement progressif de la notion de narrativité. On pourrait même dire que la narrativité fonctionne comme une sorte de trait d'union entre les différents aspects du fait narratif révélé par ces évolutions, voire un concept privilégié pour l'étude de l'état actuel de la réflexion sur le récit. Alors, une des premières théories majeures de la narrativité est celle de Grimas. Dans un article qui date de 1969, il oppose au sein du mode constitutif le niveau apparent des manifestations. Il oppose au sein du modèle constitutif le niveau apparent des manifestations au niveau immanent, constituant une sorte de tronc structurel commun, où la narrativité se trouve située et organisée antérieurement à sa manifestation. Un niveau sémiotique commun est donc distinct du niveau linguistique et lui est logiquement antérieur, quel que soit le langage choisi par sa manifestation. Ainsi conçu, et je cite, une narrativité généralisée, libérée de son sens restrictif, qu'il a lié aux formes figuratives des récits, est considérée comme le principe organisateur de tout récit, narratif et non narratif. Fin des citations. Alors, la narrativité ainsi généralisée ferait donc partie intégrante de la structure élémentaire de la signification, ou du modèle constitutionnel fondé sur les trois catégories logiques de contrariété, contradiction et présupposition. Alors, pour ma part, après cette présentation extrêmement rapide dans une théorie très complexe, mais pour ma part, je ne peux que me rallier aux interrogations de Rücker à la garde de ce modèle de grammaire narrative. D'une part, et je cite, la grammaire dite de surface n'est-elle pas plus riche en potentialité narrative que la grammaire fondamentale? D'autre part, les exigences logiques des catégories de contrariété, contradiction et présupposition seraient-elles véritablement satisfaites en leur rigueur dans le domaine de la narrativité? Je cite Rücker, « Si elles étaient, observe Rücker, toutes les opérations ultérieures devraient être aussi prévisibles et calculables, selon les termes de Grimas, que l'auteur le déclare. Mais alors, et c'est la question, mais alors, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas d'événement, il n'y aurait pas de surprise, il n'y aurait rien à raconter. On peut donc présumer que la grammaire de surface aura le plus souvent affaire à des quasi-contradictions, des quasi-contrariétés et des quasi-présuppositions. Fin des citations. Autre moi, il est justement du côté de ce genre d'opérations quasi-logiques ou logiquement inadéquates qu'il faut chercher la narrativité, plutôt que du côté des relations binaires du type blanc versus non-blanc pour la contradiction, blanc versus noir pour la contrariété et non-blanc versus noir pour la présupposition. Un processus dynamique qui se réalise au fur et à mesure du déroulement du récit, verbal ou non-verbal, plutôt qu'une propriété immanente qui préorganise tout discours au niveau du modèle constitutionnel, construit de manière déductive et axiomatique, la narrativité fonctionne selon un mode de raisonnement inférentiel pour arbitrer entre les différents niveaux et composantes du récit. Supposition confirmée ou infirmée rétrospectivement, voire laissée en suspens dans la suite de l'histoire, revirement improbable, développement parallèle en contradiction les uns avec les autres. Alors, maintenant, j'ai besoin de cette machine. Alors, juste.
Un micro. On va.
Voilà, c'est un
homme assez minimaliste du poète américain, William Carlos Williams. C'est très simple, donc, même si vous n'êtes pas très angliciste, bon, je crois que vous pouvez suivre.
This is just to say, I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold.
Quand on lit ce poème très minimaliste, on se pose beaucoup de questions. J'ai mangé les prunes, mais qui a mis ces prunes dans la frigidaire? Et que probablement, hein, probablement, mais il ne sait pas, mais il fait une supposition, probablement c'était prévu pour le petit déjeuner. Moi, je les ai mangés. Et puis ensuite, il dit qu'il ne sait pas s'il... il dit, pardonnez-moi, mais sans savoir si vraiment il avait fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais il finit avec une affirmation assez étonnante. La prune était douce, mais froide. Donc, est-ce que c'est... une sorte de commentaire entre les relations, commentaire sur les relations entre les deux personnes, l'homme et sa femme, ou on ne sait pas, mais on fait toutes sortes d'inférences, de suppositions, on essaie de deviner, etc. Et c'est ça, et c'est là qu'on trouve la narrativité, pour moi. Donc c'est un exemple, c'est simple, mais qui montre le phénomène qui m'intéresse dans la narrativité. Bon, alors. Si le discours narratif possède sa logique, il n'est pas pour autant le lieu de la logique pure. Au contraire, il est condamné à trafiquer dans les raisonnements parfois défectueux, peu concluants, ambigus ou contradictoires, hein, comme dans le poème de Williams. Ceci étant, je me propose d'avancer comme critère de base. Oui. Oui. Bon. Je me propose j'arrive à la thèse principale de mon intervention aujourd'hui, mais je propose comme critère de base d'une théorie de la narrativité le sophisme du post hoc ergo propter hoc. Après ceci, à cause de ceci. C'est-à-dire la confusion de la succession et de la causalité. Mais il n'y a rien de révolutionnaire dans ce rapprochement entre le récit et le post-hoc ergo propter hoc. Déjà dans la poétique, Aristote faisait remarquer, je cite, une grande différence selon les événements, selon que les événements arrivent à cause de tels autres ou bien après tels autres. Fin de citation. Plus d'un chercheur au fil des dernières décennies, pour ne pas parler de la longue histoire de la poétique, a attiré l'attention sur la pertinence, voire la centralité de ce sophisme dans le domaine du narratif. Le ressort principal du récit, pour employer une métaphore proposée par Joel Pence, le ressort principal du récit, the mainspring of narrative. Alors, quoi qu'il en soit, et malgré plusieurs publications de première qualité portant sur la narrativité, de manière explicite ou non, il n'existe pas à ma connaissance d'études systématiques ou soutenues reliant le sophisme du post-hoc, ergo propter hoc, à la narrativité. Alors, en travaillant sur la narrativité, j'ai été amené à adopter le point de vue
fonctionnel, considérant que dans le récit, qu'il soit verbal ou non verbal, tout se tient, y compris le principe du post hoc ergo propter hoc, dans des degrés variables. Les différentes composantes sont liées entre elles par des relations de fonctionnalité, pour ainsi dire, ou pour aller un peu vite, X existe en fonction de Y. Donc, je situe sophisme à l'intérieur d'une conception complètement fonctionnelle du récit. Hein. Et le sophisme du post-hoc ergo propter hoc est aussi un principe fonctionnel, comme ça deviendra plus évident, j'espère, dans la suite. Alors, dans les approches narratologiques du récit, les fonctions et les principes de fonctionnalité ont été intégrés au texte pour l'essentiel de deux façons. D'un côté se trouvent les fonctions constituant le modèle de communication verbale établi par Roman Jakobson et adopté par Gérard Genette sous le terme de fonction de narrateur. Selon Genette, il y a la fonction narrative relève grosso modo de la fonction référentielle chez Jakobson. La fonction métanarrative qui marque les organisateurs du récit relève de la fonction métalinguistique chez Jakobson et accessoirement, me semble-t-il, de la fonction poétique. Ensuite, la fonction de communication orientée vers le narrateur. Vers le narrateur, ouvre des fonctions d'orateur. Les fonctions de communication mettent en œuvre les fonctions phatiques et cognitives du schéma jacobsonien. Enfin, la fonction testimoniale ou fonction d'attestation, mettant l'accent sur le narrateur, traduit la fonction émotive ou expressive chez Jakobson. Alors, deux points à signaler. Premièrement, un des traits marquants de ce système est que les fonctions du narrateur déployées dans des dosages variables, selon le cas, se trouvent dans des relations d'interdépendance entre elles. Seule la fonction narrative est indispensable. Les autres sont souvent moins importants. Un deuxième point, là où Jakobson parle des fonctions de la communication, Genette parle des fonctions du narrateur. Glissement terminologique volontaire ou non, il me paraît préférable, du point de vue de la narrativité, de retirer l'expression fonction de la narration, plutôt que de dire fonction du narrateur. Alors, selon Marie-Laure Ryan, qui a fait quelques-uns des meilleurs articles sur le problème de la narrativité, selon elle, si nous acceptons la possibilité de narrativité en l'art dramatique, au cinéma et dans la peinture, la présence d'un narrateur n'est plus une condition nécessaire. Ça, c'est une différence très nette depuis la narratologie classique et la narratologie qu'on dit parfois post-classique. Ça, c'est une des différences capitales. Et la narrativité, on parle de narrativité dans les différents phénomènes narratifs, on n'a pas besoin de narrateur. Il n'y a pas de narrateur dans un tableau, mais il peut y avoir des éléments narratifs. Alors, l'autre investissement majeur des fonctions et de la fonctionnalité dans la recherche narrative, plus proche du problème du sophisme du post-hoc ergo propter hoc dans les manifestations narratives, porte sur la structuration des contenus. Remontant aux travaux de Propp et de Tomaszewski, ces recherches se sont développées pendant les années 60 et 70, sous la forme de différentes grammaires et logiques narratives. Et elles ont connu depuis ce temps d'autres évolutions sous l'influence de la logique modale
de l'intelligence artificielle, du pragmatisme et du cognitivisme. Mais pour les besoins de mes propos d'aujourd'hui, je me réfère brièvement à l'article de Roland Barthes, qui me semble mettre en relief bien le problème. Bon, sur son célèbre article, l'introduction à l'analyse structurelle du récit. Car c'est ici qu'on trouve une sorte de conflit ou de tension, très instructif d'ailleurs, entre le fonctionnalisme des modèles narratifs formels et le principe du post hoc ergo pop hoc. Et c'est là que le conflit entre les bons modèles formels et ce sophisme qui est pour moi le moteur de la narrativité. Alors, s'appuyant sur les travaux de Propp et de Tomaszewski, parmi d'autres, Barthes distingue trois niveaux de récit, les fonctions, formant les plus petites unités narratives, les actions, ou la participation du personnage à une sphère d'activité, et troisièmement, la narration ou le discours narratif. Le premier niveau, celui des fonctions, est subdivisé en une fonctionnalité du faire, fonction avec un F majuscule, et une fonctionnalité de l'être ou indice. Les fonctions, à leur tour, se subdivisent encore une fois en fonctions cardinales ou noyaux constituant les charnières chronologiques et logiques essentielles au déroulement de l'histoire et formant l'armature du récit, et les catalyses ou les notations secondaires remplissant les espaces entre les fonctions cardinales. Alors, il n'est pas nécessaire ici d'aller plus loin dans le détail du système élaboré par Barthes, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, sauf pour quelques observations concernant l'agencement des unités et des niveaux du récit dans une logique de corrélation. D'un côté, les fonctions liées entre elles de manière métonymique sont des unités distributionnelles déployées sur l'axe syntagmatique. D'autre part, les indices métaphoriques sont des unités intégratives formant l'axe paradigmatique du récit. Or, pour Barthes, du moins dans son introduction, dans cet article, et nonobstant les réflexions ultérieures sur la lecture, notamment dans SZ, alors comprendre un récit, selon Barthes dans cet article, a un sens bien particulier. Et je cite, ce n'est pas seulement suivre le dévidement de l'histoire, c'est aussi y reconnaître les étages, projeter les enchaînements horizontaux du fil narratif sur un axe vertical, lire, écouter un récit, ce n'est pas seulement passer d'un mot à un autre, c'est aussi passer d'un niveau à l'autre. Bref, tout s'organise autour de l'axe syntagmatique ou horizontal et de l'axe paradigmatique ou vertical de la linguistique structurale. Pardon. Et pour sanctionner le tout, Barthes cite la proposition de Lévi-Strauss, l'ordre de succession chronologique se résorbe dans une structure matricielle atemporelle. Le but de l'analyse narrative serait donc, selon Barthes, de déchronologiser le contenu narratif et de le relogifier. Mais voici que Barthes introduit une deuxième logique, difficile à réconcilier avec la première, et qui le caractérise d'erreur logique, même si pour les logiciens, il ne s'agit pas forcément ou pas toujours d'une erreur. Le propter hoc ergo propter hoc. Selon Barthes, et je cite, le ressort de l'activité narrative est la confusion même de la consécution et de la conséquence. Ce qui vient après étant lu dans le récit comme causé par. Sans le nommer ainsi, Barthes identifie ce qui est, pour moi, le principe même de la narrativité. Pourtant, cette deuxième logique, celle de l'activité narrative, du sophisme, reste marginalisée par la logique du contenu narratif, structuré, lui, dans une hiérarchie acrone des niveaux. Quant aux plus petites unités narratives que sont les fonctions, elles se retrouvent immobilisées dans des corrélations de la structure matricielle du récit. Le temps et le référent étant relégués au statut d'illusion, illusion chronologique, illusion référentielle. Alors, à la place d'un modèle narratif qui se construit du bas vers le haut et qui distribue ses unités sur les axes syntagmatiques et paradigmatiques, il me semble préférable, pour donner à la narrativité sa juste place et valeur au sein du dispositif du récit, il me semble préférable d'adopter une autre disposition. Dans un processus dynamique, le récit se construit par le biais de la lecture, du haut vers le bas, et plus important encore, de manière prospective et rétrospective dans un schéma configurationnel. Alors, je cite maintenant Lewis O. Mink sur ce qu'il appelle la compréhension configurationnelle et typique du récit. Je cite, dans la compréhension configurationnelle d'une histoire que l'on a suivie, dit Mink, la fin est reliée à la promesse du début et le début à la promesse de la fin. La nécessité des références rétrospectives, ce qu'il appelle backward references, annule, pour ainsi dire, la contingence des références prospectives, forward references. Pour comprendre la succession temporelle, il faut penser dans les deux sens en même temps. Alors, la construction configurationnelle ou dynamique du récit passe par ces références prospectives et rétrospectives. Et on peut, à juste titre, me semble-t-il, rapprocher ce double mouvement du sophisme du post hoc ergo pop hoc. Le raisonnement dans les deux, bon, par exemple, que donné par Mink, et dans le sophisme, le raisonnement est toujours un mouvement inférentiel, prospectif et rétrospectif. Alors, j'aimerais maintenant, dans la même ligne de réflexion, passer à une autre version de cette problématique, même qu'il n'est pas nommé, selon ce film, mais une autre version, même si l'auteur ne fait pas le lien avec, ni avec la narrativité, ni avec ce sophisme. Alors, il s'agit de l'article de Gérard Genette intitulé « Vraisemblable et motivation ». Okay. Alors, tout en défendant une théorie fonctionnelle du récit, par référence à l'arbitraire du signe au sens saussurien, Genette oppose un arbitraire de direction, le possible à chaque instant, ou la contingence de la suite linéaire, aux déterminations rétrogrades, c'est-à-dire la détermination des causes par les effets, la fin commandant téléologiquement le début. Toute justification a posteriori constitue donc une motivation ou un alibi causaliste. C'est Genette qui dit ça. Hein. Bon, à partir de ces deux déterminations, le possible à chaque instant et la justification a posteriori, deux types de récits peuvent être délimités. Voilà. Donc, premièrement, le récit non motivé est divisé en deux sous-types. Le récit arbitraire, exemple, la marquise demanda sa voiture et s'est mise au lit. Ensuite, le récit vraisemblable, exemple, la marquise demanda sa voiture et alla se promener. Deuxièmement,
deuxième type, le récit motivé. La marquise demanda sa voiture et se mit au lit car elle était fort capricieuse. Donc vous voyez dans le récit vraisemblable, on n'a pas besoin de fournir une explication, non? C'est implicite. Hein? Et on peut inférer voilà, sans difficulté. Pourquoi. La première était arbitraire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique dans l'action. Et le récit motivé, hein, il y a quelque chose d'anormal, mais on essaie de l'expliquer. Alors, dans tous ces trois cas, le lien entre les deux propositions est arbitraire. Hein, ça se montre, hein. Alors, cet arbitraire étant dissimulé, plus ou moins, par la motivation. De toute évidence, c'est le récit vraisemblable qui correspondrait le mieux à la norme, dans la mesure où certaines causes produisent certains effets et que, corrélativement, certains effets s'expliquent par certaines causes. Alors, ainsi posé par Genette, dans un langage saussurien, est le principe de narrativité. Traduit en termes de sophisme, du sophisme du post-hoc ergo propter-hoc, cela signifie à peu près que, sur le plan inductif et déductif, il y a au sein du récit une disparité intrinsèque entre la consécution et la conséquence que l'on ne respecte pas. Ce serait le cas du récit arbitraire si l'on confondait la consécution et la conséquence. Mais cela ne se passe pas toujours de cette façon. Sur vérification empirique, il se peut qu'un lien de causalité soit établi, illustré par le récit motivé, qui fournit une explication forcément a posteriori du geste inattendu de la marquise. Dans ce dispositif, le principe de l'apostrophisme est préservé, mais au lieu de le neutraliser en l'intégrant aux axes syntagmatiques et pragmatiques et paradigmatiques, comme cela se fait chez Barthes, ici, les opérations inférentielles se déploient sur un plan textuel de manière à la fois prospective et rétrospective, et pas intégrées dans le schéma syntagmatique, paradigmatique, structuraliste. Bon. Alors, il reste encore un dernier point dans cet excursus un peu archéologique, et qui consiste en ceci. Si chez Barthes, Grimas, Genette et quelques autres chercheurs travaillant à l'époque, l'époque classique de la narratologie, si on trouve effectivement les réflexions fondatrices de la théorie de la narrativité, il y a une absence presque totale de réflexion sur un concept voisin, l'intrigue. On sait que l'un des enjeux de Ricoeur dans son temps et récit consistait justement à remédier à ce manque en s'interrogeant sur la mise en intrigue ou le mythos aristotélicien dans tous ses états, et donc de réintroduire dans la théorie narrative le problème de l'intrigue. Les considérations philosophiques et herméneutiques qui font l'objet de cette discussion dépassent plus largement nos besoins, mais il suffira pour nous, dans la perspective narratologique, d'aborder les choses d'une autre manière. Alors, je prends comme exemple les deux phrases confectionnées dans un esprit aristotélicien par E.M. Forster en 1927, loin du formalisme russe et du structuralisme français. Voilà. The king died and then the queen died is a story, l'histoire.
Bon, le story, le story, l'histoire serait donc un récit d'événements disposés dans leur séquence temporelle. Ensuite, the king died, and then the queen died of grief is a plot, an intrigue. L'intrigue comprend la même séquence temporelle, selon Foster, mais cette séquence est éclipsée par la causalité. Alors, on voit que le premier exemple illustre assez bien le sophisme du post-hoc ergo propter hoc, tandis que le second lève l'erreur logique potentielle, pourvu que l'explication proposée soit la bonne, bien sûr. Alors, bon, j'avoue que comme beaucoup de narratologues anglicistes, je suis un peu gêné par cet exemple, hein, et non seulement à cause de sa nature artificielle, hein, qui fait penser à la fameuse « The cat is on the mat », le chat est sous le paillasson, qui a épuisé l'imagination de plusieurs générations de logiciens. Alors, face des narratologues anglophones ou anglicistes qui refusent même de parler de cet exemple. Mais, et d'ailleurs, face aux minutieuses analyses qui ont été faites sur les fonctions, les motifs, les motifèmes, les séquences, les modélisations, etc., ces phrases semblent d'une simplicité peu éclairante. Et pour compliquer les choses, ça pose un grand problème dans la narratologie de langue anglaise. Pour compliquer les choses encore, on n'a jamais su depuis l'avènement des approches narratologiques, on n'a jamais su rapprocher de manière satisfaisante les termes anglais « story » et « plot », les termes utilisés par les Russes « fabula » et « sujet », ou les termes structuralistes « histoire »,« discours » ou « histoire »,« récit ». Eux-mêmes, en français, étant des expressions marquées d'une certaine ambiguïté. Donc il y a un problème à la fois conceptuel et terminologique, et souvent, c'est assez agaçant quand on lit la théorie narrative en langue anglaise, souvent on se contente de ranger ces termes dans deux colonnes, comme si ces termes étaient synonymes, et ce qui n'est pas le cas. Il y a donc, ça produit beaucoup de confusion, et on comprend pourquoi dans ces conditions, pourquoi la méfiance de certains post-structuralistes et déconstructionnistes à l'égard de l'ensemble de ces concepts, qui sont parfois tout simplement rejetés. Hein. On peut faire parler de signifiant pur sans intervention de ces concepts complexes et confus. Alors, je laisse de côté ces problèmes pour signaler une difficulté bien particulière des deux phrases qui n'a peut-être pas été prise suffisamment en compte. Étant donné que les phrases ont été inventées à des fins illustratives, quel pourrait être le statut hors de ce contexte par rapport à tel ou tel texte concret? S'agit-il du résumé d'un récit plus long? S'agit-il de l'ébauche d'un récit destiné aux participants d'un concours littéraire? Ou s'agit-il de phrases empruntées à un texte précis? Je ne tranche pas, mais imaginons le cas d'un roman qui commence par le roi meurt et ensuite la reine meurt. Outre le lien de causalité déclenché dans l'esprit du destinataire, par la succession chronologique de ces événements, cette phrase contient un certain nombre de présupposés. Le roi et la reine en question font partie de la même famille royale. Ils sont les monarques d'un même royaume. Ils sont d'ailleurs issus de la même génération et ils sont mariés l'un avec l'autre. Mais imaginons Mais cet état de choses peut être sérieusement ébranlé selon tel ou tel scénario. Imaginons maintenant que la dizaine de pages qui suivent cette première phrase représente un ellipse par rapport à cette phrase initiale et qu'à la fin, nous découvrons tout d'un coup que les individus en question sont Charles Quint d'Espagne, mort en 1556, et la reine d'Elisabeth d'Angleterre, morte en 1603. Alors, la phrase reste parfaitement valable, hein, mais les conditions, mais dans des conditions qui font surgir au premier plan les risques qu'on court lorsqu'on dit que ce qui vient après est causé par ce qui vient, ce qui précède. Hein. Donc, une phrase comme ça peut révéler des surprises. Alors, une autre possibilité, dans notre roman imaginaire, on se rend compte après coup que le roi mourut et ensuite la reine mourut marque le début d'un jeu de rôle. Et que les personnages qui jouent ces rôles sont des écoliers et donc en réalité personne ne meurt. Ou bien la phrase paraît dans le cadre d'une mise en abîme et elle est donc subordonnée à des fonctionnalités qui ne seraient pas celles du récit premier. D'autres fonctionnalités encore seraient à prendre en compte si la phrase est énoncée dans un discours, dans les discours d'un narrateur omniscient ou dans les discours intérieurs d'un personnage, etc. Alors, ce petit test, qui souffre bien évidemment des mêmes défauts que les autres phrases proposées par Forster et les théoriciens du récit, alors, cette phrase sert néanmoins à ouvrir certaines perspectives vis-à-vis du post hoc ergo pop hoc narratif qu'il serait intéressant d'explorer plus dans le détail. En effet, il semblerait que ce sophisme se manifeste dans le récit dans deux étapes plus ou moins complémentaires. Pour ne parler que du récit verbal, et mettant entre parenthèses les différents facteurs d'intermédialité qui sont susceptibles de modifier les choses, alors, la lecture ou l'écoute d'un récit déclenche une série d'inférences et de présuppositions, etc., qui se déploient de manière à la fois prospective et rétrospective. Ce processus configurant et synthétisant fonctionne du haut vers le bas, pour ainsi dire, une mise en intrigue. Et il traduit une tentative d'établir, dans un deuxième temps, les liens chronologiques ou non chronologiques et ou logiques qui peuvent exister entre les éléments du récit. C'est lors de cette deuxième étape que le sophisme du post hoc ergo pop hoc entre en jeu. La consécution traduit-elle la conséquence ? La succession temporelle est-elle logiquement motivée? Plutôt qu'une structure immanente qui fournirait l'armature formelle du récit, ces deux visages de la narrativité semblent dessiner deux tendances dans la construction du récit. Une tendance dans laquelle les inférences prospectives et rétrospectives sont dans des relations de convergence, dans les relations de convergence une tendance dans laquelle les inférences prospectives et rétrospectives sont dans les relations de convergence avec le sophisme de Popper-Hoc et de Popper-Hoc, et une tendance dans laquelle ces deux aspects de la narrativité sont divergents. Bon, je vais donner un exemple. Okay. Bon, même si cette hypothèse n'est pas sans fondement précédent, son fondement, son précédent dans les écrits théoriques, il va de soi qu'une toute confirmation demande l'analyse d'un corpus approprié. Je n'ai pas établi tel corpus, mais à titre illustratif et exploratoire, j'ai choisi deux exemples hein, pour montrer ces deux tendances convergentes et divergentes dans le déploiement de la narrativité. Bon, pour illustrer la tendance divergente entre les deux aspects, j'ai pris comme exemple le portrait de l'artiste en jeune homme de James Joyce. Alors, histoire de l'éducation de l'artiste, ce roman ne raconte pas les événements de la vie de Stephen Dedalus dans une séquence de cause à effet, mais il reprend une série d'épiphanies, sorte de poèmes en prose rédigés par Joyce quelques années avant la rédaction de Portrait. Ces épiphanies sont organisées de manière analogique, en chapitres, sous-chapitres et portions de texte, plutôt que dans une suite de causes à effet. Alors, au chapitre 1, à la fin du premier sous-chapitre, qui représente quelques scènes de l'enfance, de la jeune enfance de Stephen Dedalus, on lit la phrase culpabilisante de la mère. Stephen, demandez pardon. Et la tante, qui enchaîne, disant, sans cela, les aigles viendront et lui creveront les yeux. Alors, cette dernière phrase est suivie d'un petit poème, qui est en fait une des épiphanies. Pull out his eyes, apologize, apologize, pull out his eyes, apologize, pull out his eyes, pull out his eyes, apologize. C'est en quelque sorte le premier poème de Stephen Dedalus. Si on travaille dans ce roman en plus en détail, tout le roman est organisé de cette manière analogique. Hein? Ça ne saute pas aux yeux quand on le lit, mais quand on l'étudie en analyse, ça marche comme ça. Alors, allons plus loin. Alors, évoqué ici par le biais d'une allusion biblique, je ne vais pas dans le détail, est la punition de l'enfant qui se moque de ses parents, ainsi que dans la version anglaise, mais dans la traduction, un livre d'éloquence bien connu à la fin du 19e siècle, Apologia pro vita sua, apologie de sa vie, du cardinal irlandais Newman. Alors, il y a cette double allusion qui est dans cette épiphanie. Alors, maintenant, quelques années plus tard, alors une punition, il est puni par les aigles. La punition, c'est de, il n'a pas obéi aux parents, donc la punition, c'est d'être les aigles crèvent les yeux. C'est ça la punition. Alors maintenant, quelques années plus tard, lorsque Stephen est pensionnaire dans un collège jésuite, ses lunettes sont cassées lorsqu'il est renversé par un vélo. Incapable, parce qu'il est très myope, il est incapable de faire ses devoirs scolaires, il est dispensé du travail par le père Arnal, mais il est quand même sévèrement puni par le préfet d'études, son supérieur hiérarchique. Alors, indigné par cette injustice et encouragé par ses camarades, Stephen se rend un peu plus tard, quelques jours plus tard, chez le recteur du collège, le patron, non pas pour demander pardon, mais pour s'expliquer et pour voir la dispense rétablie, ce qui est accordé. Donc, on voit qu'il y a entre l'incident à l'origine de l'épiphanie et l'épaisseur des lunettes, il n'y a aucun lien de causalité. Et que le risque de confondre la consécution et la conséquence est donc assez faible. Ce qui vient après n'est pas forcément causé par. Ce qui te permet de faire quand même un lien entre ces deux moments du récit, tous deux marqués par le problème de la culpabilité et de la punition, c'est moins la suite des événements que l'épiphanie qui incite à faire des inférences qui sont par la suite vérifiées. Hein. Donc ce sont pas, les deux portions de texte ne sont pas liées chronologiquement oui, mais pas logiquement, c'est par ce petit poème hein, que les inférences nous permettent de faire le lien logique entre les deux moments. Donc la connexion logique et la connexion chronologique ne sont pas de même ordre. Bon, c'est plutôt l'analogie qui est établie inférentiellement hein, qui permet de relier ces deux portions de texte. Donc, et c'est ça où mon exemple de la narrativité. On peut donc dire qu'il y a une relative divergence entre les deux aspects de la narrativité, hein, ces inférences prospectives et rétrospectives. Et la suite logique et chronologique. Les inférences de départ ne permettent pas de conclure que ce qui vient après est causé par ce qui précède. Hein. Voilà pour un exemple tendance divergente dans les deux composantes de la narrativité. Alors, il n'en va pas de même dans mon deuxième exemple, une nouvelle de l'auteur américain Ambrose Bierce, intitulée Porte disparue, qui est apparue vers 1870. Le protagoniste, éclaireur dans l'armée nordiste pendant la guerre civile, est envoyé en mission vers les lignes ennemies pour prendre tout ce qu'il peut. Mission accomplie. Il s'abrite dans une bâtisse à quelques distances, des troupes ennemies, et se décide de tuer un soldat sudiste avant de regagner le poste de commandement. Je cite, « Cela n'aurait sans doute aucune influence, ni sur la durée de la guerre, ni sur le résultat de la guerre. Mais le métier du soldat est de tuer. » L'éclaireur arma son fusil et régla la détente. Mais à ce moment, tout bascule vers un régime rigoureusement déterministe. Et je cite, « Or, il était décrété depuis l'origine des temps que Jérôme Searing ne devait assassiner personne par cette matinée d'été ensoleillée. Au cours des siècles innombrables, dans cette prodigieuse mosaïque dont certaines parties vaguement perceptibles ont reçu le nom d'histoire, les événements s'étaient agencés de telle sorte que les actes qu'ils voulaient accomplir auraient gravement compromis l'harmonie du destin général. » Donc, en effet, à l'instant où Searing commence à appuyer sur l'étente, un officier de l'armée confédérée tire un canon de campagne sur la bâtisse, et Searing se retrouve enseveli sous les décombres, le canon de son fusil pointé exactement vers le milieu de son front. Il suit quelques pages qui décrivent en détail les tentatives de Searing de s'extraire de son piège, tentatives qui semblent s'allonger dans la durée, mais en réalité, tout se passe dans quelques instants, car au moment de l'effondrement de la structure, L'arme s'est déchargée et la balle a transpercé la tête du soldat. Bon, à la fin de la nouvelle, le frère de Searing, lieutenant de la même unité de l'armée nordiste passe devant le bâtisse effondré. Voyant le cadavre d'un homme apparemment tué par la chute de l'édifice, le lieutenant, regardant sa montre, exactement 22 minutes après le tir du canon, se dit « mort depuis une semaine ». Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Dans Portrait disparu, contrairement au portrait de Joyce, la chronologie et la logique semblent se compléter, et la suite des événements permet de construire une intrigue au sens fort. Ce qui vient après semble bel et bien être causé par ce qui précède. D'autre part, les inférences liées aux références prospectives et rétrospectives au niveau sur la surface textuelle vont généralement dans le même sens que l'intrigue et convergent avec l'intrigue. Donc, par exemple, si le lieutenant ne reconnaît pas son propre frère sous les décombres, pour le lecteur, l'identité du cadavre est facilement inférée à partir des données fournies par l'histoire. Donc il y a une convergence entre ces inférences prospectives et rétrospectives de surface qui convergent avec ce qui se passe au niveau de l'histoire. C'est toujours relatif, il n'y a pas une convergence ou une divergence absolue, ce sont, je les nomme plutôt des tendances. Donc, nos deux exemples, le portrait de Joyce et le portrait disparu de Beers, illustrent deux types de narrativité, l'une divergente, l'autre convergente. Ces exemples montrent aussi que si la narrativité contribue à la cohérence et à la configuration du récit, elle ne correspond pas aux structures du récit. En effet, ceux qui se sont penchés sur le problème de la narrativité font souvent une distinction de base. Être narratif et avoir la narrativité. Pour Gerald Prince, par exemple, il y a d'un côté ce qui rend un texte narratif, ce que les récits possèdent en commun, ce qu'il appelle narrativeness en anglais. Il y a de l'autre côté la narrativité, ce qui, dans un texte, rend un texte potentiellement narratif et ce qui rend ce récit plus ou moins narratif. Selon David Herman, pour qu'une séquence puisse être considérée comme narrative, elle doit être dotée de certains traits. C'est ce qui nous permet de reconnaître un texte comme une histoire. Herman appelle ça « narrative hood », par contraste avec « narrativeness » de Gerald Prince. Alors, quant à la narrativité, selon Herman, c'est ce qui permet de comprendre un récit comme plus ou moins narratif en fonction de certaines attentes ou transgressions. Alors, je ne partage pas tout à fait ces deux points de vue, mais le schéma que je dessine repose lui aussi sur la distinction être narratif et avoir la narrativité. Mais en plaçant le sophisme du post-hoc, ergo propter hoc, au cœur du problème de la narrativité, mon schéma cherche à spécifier comment la narrativité fonctionne. Le fait que cette conception de la narrativité associe au sophisme les inférences prospectives et rétrospectives, mises en œuvre par la lecture ou par l'écoute, a des conséquences cruciales, me semble-t-il, pour au moins deux dimensions majeures de la théorie narrative. Premièrement, la distinction histoire-intrigue, au sens de Forster, n'est pas de nature catégorielle, mais passe par une suite de gradations. En effet, l'intrigue est une mise en intrigue plus ou moins importante, plus ou moins conséquente. À cet égard, on peut se référer aux trois types de récits discernés par Genette. Arbitraire, vraisemblable, motivé, différencier entre eux, fonctionnellement, par degré. Deuxièmement, il en va de même pour l'histoire et le discours. La ligne de démarcation entre les deux devenant plus diffuse, plus floue, sous l'influence de la narrativité. Le sophisme du post-hoc ergo propter-hoc crée entre l'histoire et les discours des relations nettement plus souples que dans les modèles narratifs formels. Alors, j'aimerais maintenant terminer mes réflexions sur la narrativité en annexant deux notions qui résument en partie, qui illustrent un peu le système de ce que je viens de mettre en place. La première nous vient du groupe de recherche en narratologie de l'Université de Hambourg, et c'est un mot, mot allemand que je vais essayer de vous expliquer. Ce qu'ils appellent le Ereignishaftigkeit. Ereignis, c'est un événement. Traduire le reste, c'est un peu compliqué. J'ai parlé avec des germanistes, etc. En anglais, les gens de Hamburg, ils disent eventfulness, donc événement. Mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant non plus. Donc en français, on ne peut pas exactement traduire. Il faut paraphraser. Un bel exemple de la créativité du lexique allemand, Ereignishaftigkeit. Bon, et je pense que c'est à peu près ça. Mais ça dépend aussi un peu de comment on interprète cette notion. Ereignishaftigkeit, c'est le potentiel de quelque chose de devenir un événement, sous-entendu événement narratif. Alors, dans un article programmatique sur cette notion, Wolf Schmidt, on s'est indiqué dans la bibliographie, Wolf Schmidt affirme que, bon, et je cite, la condition minimale de la narrativité consiste en la représentation d'au moins un changement d'état. Fin de citation. Et il explique, dans le monde narratif où des événements se produisent, il faut supposer à la fois la réalité de ces événements et le fait que ces événements sont le résultat de quelque chose. Pourtant, les choses ne sont pas aussi claires et nettes que cela. Parce que sous le signe du potentiel de quelque chose de devenir un événement, cette réalité et le fait que les événements sont le résultat de quelque chose sont relatifs plutôt qu'absolus. Les événements dans le récit n'atteignent jamais le statut d'événement au plein sens du terme. Donc, dans un monde narratif donné, il se peut que l'événement représenté soit un rêve, un souhait, une conjecture fantastique, etc., fantaisiste, et non une réalité, même dans le cadre du récit en question. Pour cette raison, ce concept de la Ereignishaftigkeit s'entoure de cinq propriétés de gradation. Et dans la narrativité, on fonctionne toujours par gradation. Hein. Ce n'est pas catégorial, mais toujours plus ou moins. Hein. Autour de toutes les études, les théories de narrativité, c'est toujours des gradations. Hein. Alors, donc, il y a ce concept est entouré, cette Ereignishaftigkeit est entouré de cinq propriétés de gradation par lesquelles les événements sont gouvernés. La pertinence, l'imprévisibilité, la persistance, l'irréversibilité et la non-itérativité. Bon, il me semble que ce sont des... c'est la forme logique des séquences qui est proposée. Il serait intéressant de comparer ça. Bon, je dois le faire. Je ferai
Est-ce que cette forme logique, les séquences, ces cinq critères, est-ce que ça, bon, quel est le rapport avec le sophisme du pop de rock, le post-rock et le pop de rock à étudier. Bon, alors, mais je laisse ça de côté. Alors, plutôt qu'une propriété immanente de cette notion du potentiel de quelque chose de d'avenir, événement, plutôt que d'une propriété immanente, ces propriétés de gradation mettent en mouvement deux potentialités interdépendantes dans le récit. Premièrement, le potentiel d'un événement putatif de devenir un événement narratif porteur de sens. Et deuxièmement, le potentiel d'un récit par vertu des relations fonctionnelles qui sont le propre d'un médium sémiotique donné, de représenter des événements putatifs. Alors, ce concept, cette Ereignishaftigkeit, ou le potentiel de devenir quelque chose, le potentiel de quelque chose de devenir un événement, est une notion très riche en conséquences, tout ce que cela apparaît au premier abord. Très riche pour le récit vu dans la perspective de la narrativité. Parce qu'en fait, elle dérive en grande partie de la notion de concrétisation formulée par le Roman Ingarten, un des grands maîtres de l'esthétique phénoménologique. Alors, selon Ingarten, la concrétisation d'une œuvre littéraire est rendu nécessaire par les incomplitudes ou les lacunes, en allemand les Leerstellen, qui sont présentes dans chaque texte littéraire. Il faut toujours remplir, il faut boucher des trous. Hein. La deuxième notion par laquelle je termine mon intervention, et qui est à quelques égards un complément de la Ereignishaftigkeit, de ces gens de Rimbaud, c'est la notion de narrativisation qui est aussi importante pour le concept de la narrativité. Alors prenons l'exemple d'une série d'images cinématographiques qui n'ont aucune relation entre ces images. Un homme n'arrête pas de se tourner et de se retourner dans son lit. Une glace est brisée. Un téléphone sonne. Alors, quel est le rapport entre ces images? Alors, Brian Richardson se propose de narrativiser ces images de la manière suivante. L'homme n'arrive pas à dormir parce qu'il s'est disputé avec son patron. Le matin, toujours furieux, il brise la glace pendant qu'il se rase. Tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est le patron qui téléphone pour demander pardon. Bon, alors, afin de boucher les trous, hein, les destinataires des images doivent intervenir et faire une série de conjectures, de deviner quelque chose, des projections, toutes, dans ce cas, selon les critères du vraisemblable. Hein. Et si l'ordre des trois images était différent, il faudrait narrativiser cette série d'une autre manière. Hein. Mais on voit bien ici que c'est la narrativité hein, qui permet de prêter aux images une cohérence. Alors, en guise de conclusion, je cite maintenant une des phrases de Meir Sternberg, rédacteur en chef de la revue Poetics Today, phrase provocatrice qui date de 1992, mais qui reste toujours un défi en 2004 et je pense aussi en 2005. Une grande partie de ce qui est considéré comme la narratologie, selon Sternberg, ne concerne pas vraiment le récit parce qu'elle n'est pas ancrée dans la narrativité. Bon, je vous remercie.
Eh bien, c'est nous qui remercions.